Je vous donne le crayon, Riyam Abbas. Alors, il y a deux colonnes, Riyam Abbas, Lina Swalem. Est-ce que vous pouvez marquer ce que vous avez hérité de vos parents?
Bien sûr. Alors, il faut que je le dise en même temps.
Ah ouais.
Livre. Honnêteté. C'est deux N?
Ouais. Honnêteté.
Pardon. Et autonomie. Indépendance. Dépendance. Voilà.
Lina?
À moi. Ok. Je vais commencer par folie. ouverture. Originalité. Et un dernier, espoir. Voilà.
Ça vous semble, vous avez l'impression d'avoir transmis ça, Riyam Abbas? Folie, ouverture, originalité, espoir?
Je crois, oui. Espoir, il faut qu'on discute. Folie, pareil, il faut qu'on discute. Ouverture, oui, je suis d'accord. Originalité, oui.
Et vous parlez quelle langue, toutes les deux? Entre vous?
On a commencé par l'arabe. Et après, maintenant, on parle beaucoup français. De temps en temps, on lance des mots en anglais. Ça dépend.
Et pour les choses intimes, c'est français ou arabe?
C'est un mélange, à mon sens. Vraiment, c'est un mélange. Des fois, il y a des mots, entre moi et Lina, ils existent que dans une langue et pas dans une autre. تعدوا علي هو إهانة لإلي لوالدي ولجوزي المرحومين شجراتي حقيقيات حياتي حقيقية ما أنتوا عم تبنوا جدار حوالينا مش مكفيكم
Il est 23h et nous allons faire un point sur l'héritage. On n'est pas sûr d'accepter le mariage, on est sceptique quand on chemin tout tracé. Les frontières, on les dessinerait autrement. Le cinéma de Riyam Abbas semble dire « le droit à la naïveté devrait être inscrit au début de chaque vie ». Le droit à l'enfance, le plus longtemps possible, qui s'étirerait presque jusqu'à la majorité. Le droit de ne pas se soucier, de ne pas se justifier sur qui on est, où et pourquoi. Riyam Abbas est née en Galilée, de parents palestiniens. Pendant la guerre des six jours, elle a 7 ans et elle ne comprend pas très bien pourquoi le pays où elle vit, Israël, se bat parfois contre ses cousins qui sont au Liban ou en Syrie. C'est encore flou dans la tête d'enfant, mais plus pour très longtemps. À 8 ans, elle commence à jouer et à l'école, on lui donne le rôle d'une mère qui a perdu son fils. Elle découvre son talent de tragédienne et elle aperçoit aussi la tragédie. Dans son court-métrage, peint, on est dans la tête d'un petit garçon. Il y a la mort de son père, à laquelle il ne peut pas croire. Il ferme les yeux, comme pour pousser la réalité à être autrement, comme pour réclamer le droit à la naïveté. Riyam Abbas, c'est un regard, ce sont ses yeux qui refusent de se justifier sur qui être et pourquoi, sur ses amours et sur ses choix. C'est la jeune fille qui dit au directeur de l'école de photo de Raïfa, à 17 ans, « Prenez-moi, sinon je serai malheureuse toute ma vie ». Elle ose mettre en jeu, face à ce qu'on lui impose, son bonheur. C'est un regard qui, dans les films d'Eran Riklis, défie les frontières et les miradors. Le réalisateur disait « On a mis beaucoup de notre tristesse commune dans ce film ». Dans Les Citronniers, Riyam Abbas joue une femme palestinienne dont les plantations de citronniers sont en danger. Ils vont être arrachés. Ils ont mis de la tristesse mais aussi de la force dans ce film. Riyam Abbas témoigne de l'histoire et elle fait l'histoire. Dans son film « Héritage », elle fait le point sur les désirs personnels qui ne correspondent pas à ce que la famille a imaginé. Elle dit « je » à la place de « nous », elle qui est devenue qui elle est grâce et à cause de l'héritage, grâce et à cause de ce qu'on lui a légué. Et à chaque film, elle ouvre les yeux comme pour pousser la réalité à être autrement. Il y aura Riam Abbas, actrice et réalisatrice palestinienne née à Nazareth, qui a grandi en Galilée, dans le nord d'Israël, avec des parents enseignants, et qui est parisienne d'adoption depuis 1989. On l'a vu, entre autres, dans les films d'Amos Gitaï, Ran Riklis ou même Spielberg. Son premier long-métrage s'appelait « Héritage », et on parlera de ce qui se transmet. Il y aura une de ses filles, Lina Soualem, qui a participé à imaginer le festival « Palestine and Out », qui se déroulera du 7 au 13 juillet à Paris pour célébrer l'art contemporain palestinien avec concerts, performances et masterclass. À la musique, Messia est là pour son grand amour entre vertige et mélancolie. Mais ça commence avec Anna.
Cette dame qui rentre chez elle en rasant les murs de l'antique palais patricien est une actrice romaine, Anna Magnani. Elle pourrait être le symbole de la ville.
Je suis quoi?
Rome, louve et vestale, aristocrate et gueuse, sombre et bouffonne. Je pourrais continuer jusqu'à demain.
Oh, Federico, va donc dormir, va.
Je peux te poser une question?
Non, j'ai pas confiance, ciao. Bonne nuit.
Est-ce que nous allons au lit comme nous l'a conseillé la Magnani?
Giornata. Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire.
Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a stare in fiera, quanta folla di maschiette e di gagà. Quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciare, l'erbarista gli portava la guantiera, con la birra e col caffè.
Quand on voit votre visage, Riam Abbas, au cinéma, on pense à Anna Magnani. Est-ce que vous comprenez
On me l'a souvent dit, oui. Je comprends et je comprends pas, c'est vrai. Mais à la fois, c'est une comédienne que j'admire tellement. C'est vraiment pour moi... Elle était pendant longtemps une sorte d'idole, en fait, de ce que c'est le jeu, ce que c'est la présence devant la caméra, ce que c'est vraiment... la sincérité de l'émotion au moment même. Et elle et Eren Papas d'un autre côté. Et j'ai l'impression de les avoir toujours connues, en fait. J'ai l'impression d'avoir deux anges gardiens sur mes deux épaules et l'une occupe l'un et l'autre.
On l'appelait la tigresse sur les tournages.
Ouais, mais j'imagine, oui.
Est-ce que si on revient à cette liste de quelques souvenirs, de quelque chose qu'on vous a transmis, si vous vous replongez, Riam Abbas en Galilée, quand vous êtes enfant, c'est quoi la lumière, c'est quoi les sons, ça ressemble à quoi ce village où vous avez grandi?
C'est beaucoup de choses, d'ailleurs il n'est plus le même, mon village, il n'est absolument plus le même, mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'on parle héritage et là quand j'y réfléchis, et ça c'est un côté de moi, en fait, avec laquelle j'ai été bercée, c'est le fait de se souvenir que des bonnes choses. Et quand je regarde les mots que j'ai écrits, tout est positif. Mais j'ai pas hérité que ça. Donc il y avait beaucoup de choses négatives, notamment, mais ces choses-là, j'ai l'impression que vraiment de les avoir occultées, quoi, de ma mémoire, et je n'ai plus envie de penser. Je crois que je les touche, et je touche à ça. Surtout quand je frôle des rôles, qui peuvent me rappeler certaines émotions que je me trouve en train de reproduire quelque part dans la nécessité de dessiner un personnage. Mais mon village, c'est un côté positif qui m'est resté en fait. C'est quelque chose qui, c'est les odeurs, c'est les sons, c'est absolument la lumière. Alors la lumière, ce que c'est une lumière qui change avec les saisons. C'est une lumière qui change avec une journée, du matin jusqu'au soir. Je me souviens quand j'étais dans l'école de photo. Je suis allée un jour, sur 3 jours, en fait, planter ma caméra dans le même endroit, sur le même vue, à prendre des photos sur des heures différentes de la journée et du lendemain et du surlendemain. Et c'est vrai que quand je regardais, il n'y a pas une photo qui ressemblait à l'autre. Donc j'ai compris qu'il y avait une sorte de magie dans la lumière travaille la nature là-bas. Les sons, c'est souvent ce que je me souviens, c'est certains animaux, c'est certains cris, certaines appellations des femmes à leurs enfants, certaines injures, je peux dire aussi des gamins entre eux, c'est le son de la cloche de l'église avec le son de la muezzine à côté, Alors, c'est aussi, malheureusement, quelque chose qui rentre peut-être dans le côté négatif, beaucoup de sons de bombardements et d'avions de chasse. Donc, beaucoup de guerres.
Et le premier mot que vous avez inscrit sur ce qu'on vous a transmis, c'est livre. La lecture avec des parents enseignants, c'était important?
C'était l'obligation presque, en fait. Mais c'était incroyable parce que des fois, l'obligation chez l'enfant devient un cauchemar. Or, chez moi, c'est devenu le plaisir. Et surtout, le plaisir de se retrouver seul avec les mots. De se retrouver vraiment à dévorer les mots et les écrivains et pour s'échapper presque, en fait. C'était une sorte de... Oui, c'était une sorte d'une petite prison agréable, j'ai envie de dire.
Parce que vous étiez beaucoup, vous étiez 10 enfants.
Oui.
Vous dites les mots, ça permettait d'être seul, c'est aussi un espace à soi qui était possible.
Mais c'est pas que la famille, parce que c'est vrai que on était 10, mais à la fois, je n'ai jamais vraiment senti une lourdeur du nombre des enfants qu'on était, en fait, tous ensemble. Je sais pas, les tâches étaient divisées, les chambres notamment. À des âges, on a changé des chambres. C'était presque une éducation militaire. Mais le livre, c'était un moment pour moi, je peux dire. C'était mon monde à moi. Personne ne pouvait pénétrer.
Et vous écriviez des poèmes?
Aussi, ouais. Beaucoup.
Qui racontaient quoi?
Qui racontait beaucoup de choses. C'est drôle parce que j'ai certaines choses encore que j'avais gardées. Et c'est les seules choses qui ont voyagé avec moi personnellement de tout ce qui m'appartenait. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, j'ouvre. À l'âge de 8-9 ans, j'écrivais comme un petit gamin qui rêve, en fait, qui rêve de la nature, qui a envie de raconter des choses sur les sensations du printemps, de l'automne, de l'hiver. C'était assez lié à la nature et à ce que je voyais autour de moi. Ça a changé beaucoup quand j'avais 17-18 ans. C'est devenu un peu une sorte d'abstraction et quelque chose de très surréaliste, en fait. Quelque chose qui, des fois, il faut que même moi, maintenant, je déchiffre ce que j'ai écrit pour comprendre ce que j'avais écrit. Et ça a été aussi suivi par une période de rêves, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup inspiré, cette écriture. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé des choses absolument sublimes, mais qui n'avaient absolument aucun sens. Quand on essayait de trouver une certaine logique pour les expliquer, je ne trouvais pas de logique. Je me suis acharnée pendant longtemps à essayer de comprendre ces rêves. Et finalement, j'ai laissé tomber parce que j'ai compris que si je l'explique, peut-être leur beauté ou leur valeur, elle partira. Et donc, j'ai essayé de transmettre souvent ces sensations en mots, en fait, à certaines époques.
Et c'est vrai qu'on vous appelait Aristote quand vous étiez petite parce que vous posiez tellement de questions.
Ah oui, vraiment, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai eu très peu de réponses, mais
c'est vrai.
Mais en fait, je faisais ma propre logique des choses. Ça veut dire que quand j'avais pas de réponse, j'ai essayé de trouver une réponse. Donc cette réponse même, elle est devenue encore une question parce qu'elle répondait à rien. Et du coup, ça a été encore une question et encore une question jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus avec moi, quoi.
5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest.
Sauto Israël, min Urshalim al-Quds. رحلة مع الفن برنامج
عزيزي المستمع
Voice of Peace is the station 24 hours a day
Après le son de La guerre des six jours, c'est un mix de la radio en Palestine. Est-ce que cette guerre-là, quand vous avez 6 ans, c'est 6-7 ans, c'était aussi la radio branchée à la maison avec les vieux transistors pour essayer de suivre ce qui se passait?
Oui, absolument, c'était ça. C'était vraiment une sorte d'enfermement dont je n'arrivais absolument pas à comprendre. Donc il n'y a pas d'école, on ne peut plus aller à l'école. Et aussi quelque chose que mon père a commencé à faire, dont je n'ai jamais compris. En fait, je comprends pourquoi il l'a fait, c'est qu'il a peint toutes les fenêtres de l'intérieur en bleu. Et c'est pour nous permettre, quand il fait noir dehors, d'exister comme si rien n'était à l'intérieur de la maison. Et pouvoir allumer la lumière et se sentir qu'on peut mener une vie normale
à l'abri, sans se faire remarquer.
Sauf que voilà, l'abri n'était pas par l'intérieur de la maison. C'est quelque part j'ai cherché une sorte de paix intérieure avec une explication de ce qui se passe. Mais c'est vrai que à 7 ans, on a un peu de mal à comprendre vraiment ce qui se passe, même si on vous explique des choses avec des mots d'enfant. Mais ça reste quelque chose qui m'a accompagné pendant longtemps, vraiment la non compréhension de la guerre, quoi. Pourquoi on fait la guerre?
Et est-ce que c'était flou aussi? Est-ce que vous, de quelle façon vous perceviez le voyage de votre grand-mère, ou en tout cas sa vie partie de Tibériade? Est-ce que vous compreniez ce mot de réfugié en Israël?
Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, en fait. Et du coup, la guerre de 6 jours a commencé à poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux dire qu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai compris un peu l'histoire de mes grands-parents paternels et maternels. Et donc, ma grand-mère maternelle, effectivement, qui était une habitante de la ville de Tibériade, en 48, pendant la guerre avec les Juifs à l'époque, parce qu'il n'y avait pas l'État d'Israël, et ils sont partis, comme beaucoup de Palestiniens qui ont suivi l'exode des Palestiniens vers les pays arabes. Et donc, par chance, mon grand-père, il avait pressenti que s'il faisait un pas de plus vers le Liban, il n'allait jamais revenir. Donc, il a caché sa famille pendant toute une nuit, et ça, ma mère, elle me le raconte aussi, entre les arbres. Et le lendemain, à l'aube, il commençait à redescendre le même chemin, parce que normalement, les avions israéliens, ils chassaient les gens vers le nord, et eux, ils sont arrivés, je ne sais pas par quel moyen, à revenir au premier village près de la frontière. Ils se sont cachés là-bas, et tout doucement, les choses commençaient à se calmer, et eux, ils ont commencé à descendre et redescendre vers la ville de Tibériade, et finalement, ils ont fini dans un village qui, aujourd'hui, à 10 minutes en voiture de la ville. Et mon grand-père, tel que ma grand-mère m'a raconté, il est parti, il avait emprunté un âne, et il est parti sur l'âne jusqu'à la ville de Tibériade pour découvrir la catastrophe, pour découvrir qu'il a tout perdu. Et après, il a erré dans la nature pendant 2 mois, il n'est pas revenu, tout le monde le cherchait, on ne le trouvait pas. Et 2 ans après, il est mort suite à... Il a chopé une sorte de maladie mentale, en fait, où il a perdu la tête et il est mort suite à ça.
Et est-ce que vers 17 ans, quand vous avez envie de quitter le village, Riem Abbas, pour aller étudier la photo, alors que vos parents, ils vous voyaient bien peut-être médecin ou avocat, c'était facile de prendre cette décision ?
Ce n'était pas facile, mais à la fois, c'est vrai qu'à 17 ans, dans le village, je veux dire, quand on est bon à l'école, parce qu'on était éduqué pour être bon à l'école, donc on n'avait vraiment pas le choix. Et donc, on s'y attend, ou ils attendaient de moi vraiment autre chose. Et comme j'ai compris très vite que c'est pas ce qui m'intéressait, donc, j'ai l'impression d'avoir imposé beaucoup de choses, en fait, des fois par difficulté, d'autres par plus de facilité, mais tout était compliqué, en fait. Tout choix personnel était quelque chose qui n'était pas facile à obtenir. Et comme on peut pas agir de soi, parce qu'on n'avait pas non plus cette possibilité, il n'y avait pas des exemples devant moi des femmes qui quittaient la maison pour aller, voilà. Donc j'avais l'impression de faire... J'avais l'impression de partir à l'aventure sans comprendre vraiment si je fais bien ou pas. Et quelque part, intérieurement, j'étais persuadée que je fais des choix qui sont bons pour moi, mais je calculais pas trop les autres à l'époque, en fait. Parce que aussi, quand on est ado, on est assez égoïste, il faut le dire. Donc on a envie de faire des choses pour soi et on pense ni à l'émotion de la mère, ni du père, ni de personne dans la famille. Donc quand on me ramenait à l'ordre pour... me faire penser à ça, j'avais l'impression que j'avais même pas la moindre idée de quoi y parler, quoi.
Parce que si vous arrivez à l'école de photo à Raïfa et que vous dites il faut que vous me preniez, il faut que ça marche, parce que sinon je vais être malheureuse toute ma vie, vous avez quand même le pressentiment de ça, que si vous faites pas vos choix, vous allez pas être heureuse.
Absolument, mais c'est vrai que aussi l'école de photo, pour moi, c'était pour m'échapper à la réalité qui voulait m'imposer. Donc, et comme je suis arrivée à cette école et que tout l'enregistrement a été terminé, ça veut dire que c'était presque à 2 semaines de début de l'école, donc il n'y a plus personne qui rentrait. Donc moi, je savais que je jouais avec le feu quand je disais ça. Et du coup, j'ai joué la carte vraiment pleinement. Et j'étais vraiment sincère. À l'époque, il a fallu que j'atteigne cette école, sinon j'allais finir dans l'école de médecine à Jérusalem ou je ne sais pas où. Donc, pour s'échapper à ce que mes parents voulaient, il a fallu que je fasse ce que je voulais. Et donc, c'était le seul choix. Je n'avais pas vraiment autre chose à regarder à part ça. Donc,
et pourquoi la photo à ce moment-là ?
La photo, parce que c'était quelque chose qui me fascinait. Mais vraiment, je ne comprenais rien à la photo. Et la vérité, je n'ai jamais touché à un appareil photo. Je n'ai jamais compris. Mais j'avais l'impression que si je faisais la photo, je pouvais faire peut-être ce que je voulais plus tard. Donc c'est presque comme c'était le biais d'arriver à faire quelque chose de différent et quelque chose d'artistique qui peut-être m'amener à autre chose après. Surtout pas médecine, surtout pas loi ou école de droit.
Et quand vous arrivez à l'école de photo, il faut gagner un peu d'argent.
Exactement, donc ça a été très cher et comme j'étais très fière de moi d'avoir réussi de rentrer, donc c'était un peu intimidant d'aller demander beaucoup d'argent à mon père. Et j'ai essayé de travailler pour pouvoir payer, m'acheter une caméra, en fait un appareil photo, m'acheter et vivre et payer mon loyer.
Et vous vous êtes retrouvée à faire beaucoup de photos de mariage ?
Absolument, mais avant ça je faisais le ménage dans l'école. Donc après les classes, je faisais le ménage et j'avais un salaire du même directeur d'ailleurs, qui me regardait 2 fois sans comprendre ce que je fais. Et après, la deuxième année, j'ai commencé à faire des photos de mariage, oui.
Et ça vous donnait envie, les mariages ?
Non, pas du tout.
En les prenant en photo ? Non.
En fait, je sais pas, j'ai jamais aimé ça et je me suis dit, un jour j'ai dit à ma mère, c'est bizarre, pourquoi on fait des photos de mariage et pas des photos d'enterrement ? Donc pour moi c'était à peu près la même chose en fait. Aujourd'hui je ne sais pas, je juge pas les gens qui veulent se marier ou les gens voilà avec leur choix, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était une fatalité le mariage chez nous. C'était, on grandit, on va à l'école, on finit, on a un job, la suite c'est il faut se marier, et la suite il faut avoir des enfants. Donc c'est presque la norme de la vie en fait. Et comme je n'étais pas trop dans la norme, donc je ne comprenais pas des fois pourquoi les gens se mariaient. Mais...
Et comment vous arrivez à faire des photos au théâtre, qui est un lieu que vous aviez... Enfin, en tout cas, le jeu que vous aviez aimé, enfant.
Alors, déjà. Après, quand j'avais fini l'école de photo, en fait, j'ai trouvé un job dans l'université de Birzeit, en Cisjordanie, à côté de Ramallah. Et un jour, il y avait ce monsieur qui est arrivé pour... je ne sais pas pourquoi, pour une raison personnelle, en fait, d'un travail qu'il voulait faire avec les étudiants théâtrales. Et on discutait un peu, et du coup, il m'a dit que je pouvais aller visiter leur théâtre à Jérusalem, et c'est ce que j'ai fait par la suite. Mais depuis que j'ai mis les pieds dans le théâtre, j'avais l'impression que c'était là où je devais être. Donc j'ai tout fait pour quitter la fac, en fait l'université de Birzeit, et j'ai rejoint ce théâtre pour, au départ, faire des photos. Après, j'ai commencé tout doucement à les aider à programmer certaines choses dans le théâtre et très vite après, quand j'ai discuté avec le metteur en scène, il me disait, mais si t'as envie, on a une tournée en fait dans deux semaines, on va à Lyon pour jouer et il y a une comédienne qui ne peut pas faire la tournée avec nous, est-ce que ça t'intéresse d'essayer? Et c'est comme ça que c'est parti en fait. J'ai essayé ça et deux semaines après, je me suis trouvée vraiment sur une scène d'une façon très professionnelle.
Et pourquoi vous aviez fait ce détour par la photo? Pourquoi pas avoir formulé tout de suite à 17 ans, j'ai envie de devenir comédienne?
Il y a des choses pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Et c'est notamment une des choses, vraiment, je ne sais pas. Une chose que je peux vous dire, que c'est à l'époque, pour faire une école d'art dramatique, il a fallu aller dans une école israélienne. Ça veut dire que par la suite, on devient... un comédien israélien à vocation de la langue hébreu. Et moi, j'avais trop d'attache à la langue arabe, que j'ai adoré beaucoup à cause de toutes les lectures que j'avais faites auparavant, et que je me suis dit, si je joue, il faut que je joue en arabe. Donc j'avais l'impression que même si je fais une formation, il faut que la langue arabe existe à l'intérieur, et ce n'était pas le cas. Mais ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, je ne sais pas pourquoi vraiment j'ai pris cette décision.
أعزائي المستمعين حتى نلتقي
خذ بدارنا وأخرجنا من
Riam Abbas, aujourd'hui quand vous retournez dans votre village, il y a quoi de vous là-bas qui reste à part votre famille?
De moi-même, personnellement,
qui est lié à cet endroit-là?
Vous l'avez dit, en fait, ma famille. Ma famille, quelques arbres que mon père avait plantés à l'époque. Je crois que c'est vraiment des souvenirs, en fait. Physiquement, je crois qu'il n'y a plus rien.
Et vous auriez imaginé faire grandir vos enfants là-bas?
Je crois pas, parce que je les ai pas faites là-bas. Donc, à partir de là, je crois pas. En plus, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui réfléchit comme ça, en fait. Donc, ils sont nés à Paris, ils sont à Paris. Donc, ça s'arrête là, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai habité là-bas, je n'ai jamais pensé à faire des enfants là-bas. Alors après, vous me posez la question pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que vraiment, ça, c'était pas un endroit qui m'a inspiré une continuité, quoi, de ma personne. Et là, je trouve qu'en France, il y avait quelque chose qui m'invitait, une sorte de liberté, je ne sais pas, une facilité de vie. C'est comme aussi une sorte d'avenir plus. D'ailleurs, ça relève aussi un mot qu'Elina a écrit, une ouverture. Là-bas, j'avais l'impression que tout était fermé. Et quand on essaye d'ouvrir, bah, par force, on vous ferme les portes, en fait. Mais de tous les côtés. Hein. Je ne parle pas que des traditions et de la famille, mais je parle du pays, de sa politique, de tout ce qui se passe. C'est ma perception personnelle. Et ça m'appartient. Ça m'appartient qu'à moi, en fait. Mais voilà.
Le nouveau disque de Messia s'appelle Grand Amour et tout sera grand ce soir. Il y aura du vertige, de la mélancolie hypnotique. C'est l'idée de faire le tour d'un sentiment et réaliser que l'amour souvent est politique. C'est oser entrer dans ces montagnes russes et se laisser dépasser parfois par ce que l'on sent. Et le premier morceau sera Grand 8.
Je suis Messia dans le backstage d'Aurélie Charron sur France Culture.
Dans un grand château noir, matin et soir, le grand 8. Je ne vois pas de suite, je ne vois pas d'été. De ces touches en ivoire, je te dédie cette fuite. Je veux me revenir, je veux te retrouver. Je voudrais tout te dire, je pourrais tout avouer. Je n'ai rien à cacher, je n'ai plus à me fuir. Lasse de me suffire, j'ai manqué de volonté. Je me retrouverai pour mieux te revenir. Pour la première fois, je m'ennuie, c'est insensé. Mais quoi de surprenant, pour la première fois, j'aime. Tout est fini, je fais. Les ombres s'écarter. Je rêve d'une vie qui serait aussi la tienne. Dans le halo sans voix de cette chambre à coucher, je me défais de tout, je fais vœu de courage. Une photo de toi que je ne peux décoller. Comment me rassembler, comment tourner les pages. Une part de l'enfance que rien ne peut effacer, qui ressemble à la mienne et serait en partance. Une chaîne, une alliance, une blessure lointaine, une phrase oubliée, qui me divise en deux et n'en vaut pas la peine. Dans un grand château noir, le grand 8. Je ne vois pas de suite, je ne vois pas d'été. De ces touches en ivoire, je te dédie cette fuite. Je veux me revenir, je veux te retrouver. Tu n'as plus à me fuir, tu n'as plus à te méfier. Je reviens d'une guerre entre moi et moi-même. Dépossédé de nous sur une terre endeuillée. Il est pourtant partout indiqué que l'on s'aime. Tous deux vivants, je dis la lumière éclatante. Notre amour dans la peau, je fais le vœu suprême. Tu es le seul temps, le seul qui m'enchante. Dans chacun de ces mots entendus que je t'aime. Tu es le seul temps, le seul qui m'enchante. Il est dans chaque mot signifié que je t'aime.
הייתה הפוכתה, רק לקבל הוראה עליך.
עצור!
מנחתה.
לכי הביתה. אסור לך להיות פה.
אני לא עברית.
אסור לך להיות פה, את לא מבינה? יהיו לך בעיות.
לא עברית.
איך קוראים לך? מה השם שלך? השם?
סלמה.
סלמה. אני איתמר. אבל קוראים לי זריזי, כי... טוב, לא משנה. את חייבת ללכת.
אבא טבעי, מן זמן לוקח אמה לשוק, אביע למון, נתניה.
וואלה.
C'était un extrait du film Les Citronniers d'Erin Reclis. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui s'est dit entre votre personnage Salma, Riam Abbas, et ce jeune soldat
En fait, à certains moments du film, on m'interdit de s'approcher de la zone qui est la plus proche de la maison du ministère, qui habite en face de chez moi. Et donc, de peur que mes citronniers meurent, moi, j'y vais quand même pour enlever les branches sèches et leur donner un peu d'eau. Et le soldat qui était sur la tour juste à côté, il descend et il vient m'avertir en fait qu'il faut pas que je sois là parce que c'est dangereux pour moi. Et il me parle en hébreu et moi, je suis supposée ne pas comprendre la langue. Et donc, je fais un mélange un peu de 3 mots en arabe et la moitié d'un mot en hébreu pour me faire comprendre.
C'est ça qui vous faisait beaucoup rire avec Lina.
Oui, oui, oui. C'est vraiment une formulation d'une phrase. Même, je ne sais même pas comment je l'avais fait dans le film. Maintenant, quand je l'entends, c'est assez drôle, oui.
Et ce personnage, cette femme, a donc comme voisin tout à coup le ministre de la Défense israélien. Donc ces citronniers sont en danger parce que pour la sécurité de ce ministre, il va falloir les déraciner peut-être, ou en tout cas les couper. C'est toute l'histoire du film. Et Erin Reclis s'est inspiré d'un fait réel, d'un fait divers réel en fait. Mais c'était des oliviers.
Exactement, exactement.
Et je crois que je le citais au début de l'émission, mais je crois qu'il disait, avec Riam Abbas, parce qu'il a écrit ce rôle pour vous, on a mis toute notre tristesse commune dans ce film. Qu'est-ce que vous avez...
Je crois qu'on a tout mis dedans en fait. Moi je dirais pas que la tristesse seulement, mais c'est vrai que... Comme si une deuxième expérience avec Erin, avec qui on s'entendait très très bien, après la fiancée syrienne, on a décidé de... En fait, il m'a proposé ce rôle. Je savais que quand on a fini la fiancée syrienne, qu'il était déjà en train de réfléchir à quelque chose pour qu'on fasse encore un film ensemble. Et quand il m'a fait lire, voilà, j'ai éclaté de rire parce que j'ai compris en fait d'où ça venait. J'ai compris que aussi ce qu'il voulait mettre en avant. Et il voulait lui en tant qu'Israélien mettre l'être humain à l'avant et surtout la l'égalité entre les gens. Ça veut dire que le droit à la vie était égal pour les deux de la même façon.
Et ce qui est beau, c'est les deux rôles de femme aussi, parce qu'il y a la femme de ce ministre qui devient la voisine donc de Salma, qui comprend bien qu'il y a un problème et qui dit aussi dans le film j'aurais aimé être une meilleure voisine, ou en tout cas qui comprend bien qu'il y a un déséquilibre qui est très étrange pour elle.
Oui, mais c'est exactement en fait ce qu'Erin essaye de faire. C'est presque, j'ai envie de dire, peut-être cette femme représente Erin dans ce qu'il est d'israélien, dans ce qu'il est de sa vie quotidienne en Israël. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de prendre sa responsabilité en tant qu'israélien pour voir où on a loupé, quoi. Où le chemin a été écourté pour que les choses s'empirent à ce point.
Est-ce que, Lina Soualem, vous parliez tout à l'heure de la façon dont ça vous a touché, vous, cette histoire, cette identité palestinienne en Israël. Je crois que vous étiez partie au Liban ensemble en 2006. Riam Abbas est avec vos filles.
Non, en Palestine.
Ah, en Palestine, oui, vous étiez en Palestine.
Guerre.
Donc, à la frontière du Liban, au nord d'Israël. Et cette guerre de 2006, justement, entre le Liban et Israël, qu'est-ce que ça a fait ressurgir comme vieux fantôme, peut-être, dans vos esprits à toutes les deux?
Bon, moi, j'avais pas de fantôme, forcément, puisque c'était un peu la première fois que je le vivais directement. Mais c'est vrai que pour moi, j'avais pas forcément de crainte, parce que vu que j'allais toujours dans un univers familial dans lequel je me sentais bien, je me retrouvais dans un cocon, et même dans des moments comme ça, je me disais que de toute façon, il nous arriverait rien, puisqu'on était en famille. Et... Mais c'est vrai que...
Tu étais jeune.
Oui,
aussi.
J'étais jeune.
Elle avait 16 ans à l'époque.
Mais c'est vrai que c'était difficile de voir un peu, justement dans ces visages que je voyais toujours dans des moments positifs et familiaux, tout d'un coup complètement changé. On revoyait des espèces de terreur, de crainte qui réapparaissaient sur les visages à la fois de mes tantes, de mes cousins. Donc c'était des moments assez étranges pour moi où je commençais à prendre conscience de quelque chose que je voyais pas forcément dans leur quotidien, dans mon quotidien. Et c'était un peu difficile, oui.
Rien à basse.
Bah moi, vous l'avez dit, en fait, ça a fait raviver ce fantôme que j'avais essayé d'écraser pendant des années, quelque part le caser dans un endroit où je le voyais pas. Mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment penser à la guerre de 67. Ça veut dire ça m'a ramené exactement des années à l'arrière où je me suis dit mais c'est quand même pas possible qu'on en ait là, quoi. Qu'après toutes ces années, j'avais l'impression d'entendre la même chose. L'artillerie était juste un peu plus moderne, un peu plus différente. Mais le danger, je veux dire, le danger et la sensation de danger, pour moi, c'était assez semblable. Or là, en plus, j'avais une peur terrifiante pour mes filles, dont je n'ai pas montré, parce que du coup, je suis mère. Là, cette fois, je suis mère, donc j'avais peut-être raison de ne pas faire des enfants là-bas. Donc ça et je m'inquiétais vraiment pour ma famille, je m'inquiétais pour les gens, je m'inquiétais pour mon entourage, mais c'est on se sent complètement dans des situations comme ça, surtout quand on est adulte, vraiment on se sent inutile, en fait on se sent presque désarmé de toute force et tout espoir que peut-être la situation ne changera jamais, en fait. Et que des générations en générations par la suite vivront ça, quoi. Je peux pas vous dire, vraiment. C'était assez catastrophique pour moi.
Et dans votre film Héritage, qui est le premier long métrage que vous avez réalisé?
Justement, c'est inspiré beaucoup de cette guerre-là. Or, je la nomme pas dans mon film, mais ça c'est à la fois. Dans le film, je voulais travailler ce fond sonore vraiment qui m'a poursuivi toute ma vie et que même en 2006, je le reçois en plein fouet. Et à la fois, je voulais vraiment raconter l'histoire de cette famille avec toute la lourdeur de la tradition, tout ce qu'on essaie d'imposer sur l'individu pour qu'il ressemble à tout le monde. J'ai laissé vivre ces conflits à l'intérieur, justement pour que la jeune fille à l'époque dise ça suffit, je me casse en fait, je pars, je quitte cet endroit parce que dans cet endroit je vais jamais réussir à forger la personne et l'être humain que je voudrais être dans ma vie.
Et dans cette famille, il y a notamment cette jeune fille qui est jouée par Afsia Herzi,
oui,
qui tombe amoureuse d'un Anglais.
Mm-hmm.
Chose très mal prise par sa famille, qui n'est pas au courant au départ, et surtout par les aînés. Ça, c'est une situation que vous avez connue?
Un peu. On va dire que certaines choses, oui, j'ai pris certaines choses, effectivement, de mon vécu à moi, pour essayer de rassembler une sorte de micro-société palestinienne dans laquelle j'ai grandi, et dans laquelle j'ai forgé mon chemin, et dans laquelle à qui j'ai dit au revoir un jour, et pour partir. Donc effectivement, peut-être le parcours de cette petite peut ressembler à mon parcours personnel, mais ce n'est pas exactement dans les détails. En tout cas, c'est inspiré de là, mais à la fois c'est amené carrément ailleurs parce que j'avais pas envie de raconter mon propre histoire, en fait.
Et vous, ça aurait été possible de dire à vos parents « je suis amoureuse d'un Anglais »
Bah, je l'ai fait, parce que je me suis mariée avec un. Oui, ça a été le cas d'ailleurs, oui. Oui, oui, mais j'ai réussi à me marier.
Réussi parce qu'il y a eu des obstacles ?
Forcément, oui. Beaucoup.
Et finalement, ça a été accepté ou pas ?
Finalement, ça a été accepté, oui. Pas de tout le monde, bien sûr.
Mais de vos parents ?
Mais j'avais besoin de la bénédiction de mes parents. Ça, c'est, je ne pouvais pas vivre sans, en fait. Malgré tout, quand on grandit dans des sociétés pareilles, même si on déteste l'autorité parentale, mais je crois que j'ai vécu dans un amour quand même assez, assez grand pour... c'est pas pour décevoir, parce que j'étais pas dans cette pensée, mais comme je croyais ce que je faisais était juste pour ma personne et pour moi, je ne comprenais pas pourquoi ça devait pas être comme ça. Donc je faisais tout pour arriver à le faire, pour donner l'exemple que c'est possible.
Lina Swalem, vous avez joué dans Héritage.
Oui.
C'était facile d'être dirigée par...
Ce qui était drôle, c'est que moi j'avais un peu... le rôle à l'antithèse du parcours de ma mère, justement, puisque j'étais la jeune fille qui se mariait très jeune et qui était très contente de rentrer dans ce parcours traditionnel et qui était toute contente de partir en Turquie pour sa lune de miel. Et justement, ma petite sœur jouait celle qui voulait voyager et qui voulait pas accepter ces choses-là. Donc c'était assez drôle. On se sentait assez bien. C'était assez naturel.
On va vous entendre toutes les trois. Donc vous vous êtes donné un rôle pas forcément facile, rien à basse.
Non.
Vous préparez votre fille au mariage et vous lui donnez quand même quelques conseils et vous lui expliquez dans cette scène que maintenant il va falloir se donner à son mari dans tous les sens du terme.
Qui n'est pas quelque chose que je ferais dans la vie, dans la vie normale.
Alia, Haya, je dis des جوزك راح يكون شريكك بكل شيء انت فاهمه علي
ماما فاهمه
لازم تلبسي له وتتزوقي له اوعك تنصحي
خدي ماما احسن مثال
طب خليكي بشغلك لنا بخصوص ليله الدخله
ماما بعرف اريد بالكتب
ماما هاي اشياء بتتعلميهاش من الكتب ليله الدخله لازم المره تقدم حالها لجوزها على الاخر يعني لازم تعطيه كل شيء الحساس واللي مش حساس الجنس انت عارفه يعني شيء
حلو اسمعوا عدوا الرجل الأعور البارودي الحنش المحارب أو الخوذة
استحي عدمك لنا روح حضر العشاء وام
Cette phrase qui est prononcée dans le film « J'aimerais être née ailleurs », vous l'avez pensée souvent ?
Ah oui, 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 beaucoup, oui. Depuis très, très jeune âge, en fait, oui.
Et vous seriez née où alors, idéalement ?
Je ne sais pas, à l'époque je ne savais pas, je ne connaissais rien à part ce coin du monde, mais n'importe quel air qui était étranger et qui venait d'ailleurs, j'aurais pu m'identifier directement. En tout cas, même des fois, des choses que je lisais qui exprimaient autre chose, qui me donnaient une image d'un autre endroit, des films que j'ai pu voir, tout me renvoyait loin. Tout me renvoyait à créer mon propre imaginaire d'un endroit qui peut être magique et qui peut être vraiment complètement différent de celui-là dans lequel je suis née et grandie.
Est-ce
que vous pensez que c'est une dévocation du théâtre que de témoigner comme ça de l'histoire contemporaine?
Oui, je le pense, mais c'est pas seulement parce que je le pense que nous le faisons, c'est parce que j'aime ça. J'aime ce théâtre-là. Disons, je ne dis pas que c'est le théâtre. Je dirais c'est notre théâtre. Je pense que le théâtre est fait pour raconter des histoires vraies, même imaginaires, mais vraies. Je pense d'ailleurs que quand vous dites témoigner, c'est vrai, mais témoigner, c'est aussi faire l'histoire. Hein, alors, comme un grain de sable. Je pense que quand un spectacle raconte une histoire vraie et importante, c'est pas seulement un témoignage, c'est aussi une action, c'est aussi une participation à l'histoire, mais à l'échelle microscopique qui est la nôtre.
Ce sont des spectacles politiques?
Oui, voilà, parce que j'ai envie de vous répondre simplement, je vous dirais oui. Si on commence à s'interroger, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ce ne sont pas des spectacles idéologiques, c'est des spectacles historiques qui racontent des événements, des passions, des luttes. Mais il n'y a pas une grille de lecture politique.
C'était Ariane Mouchkine, avec qui vous avez joué à la fin des années 80, Riam Abbas?
Absolument, en fait, en 89, quand je suis arrivée en France, elle faisait un film pour France 2 ou France 3, La Nuit Miraculeuse, et elle cherchait des comédiens, à part ces comédiens de la troupe avec qui qu'elle dirigeait à l'époque. Il y avait quelques rôles qu'elle voulait... d'autres comédiens pour les jouer, et je me souviens avoir passé le casting. À l'époque, je parlais pas un mot de français. Je passais le casting et je lui dis, mais Ariane, I don't speak French. Et donc elle me dit, mais je m'en fous, tu te lances dans quelle langue que tu veux, la langue que tu veux, juste lance-toi. Et en fait, effectivement, je me souviens avoir fait le truc en anglais. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle me prenait pour le rôle. C'était très symbolique pour moi, en tout cas. Et voilà, j'ai passé tout ce temps de tournage avec elle et à côté, avec aussi tous les comédiens qu'elle avait à l'époque, la troupe qu'elle dirigeait.
Est-ce que ça vous parle, ça, faire raconter des histoires, mais aussi faire l'histoire de façon parfois microscopique, mais c'est une action de témoigner, de raconter.
Je suis d'accord avec elle sur ce qu'elle a dit. Après, moi, j'ai aucune prétention de m'inscrire dans l'histoire. Je veux dire, on s'inscrit, c'est les autres qui nous inscrivent. On s'inscrit pas à nous-mêmes. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on laisse derrière qui s'inscrit dans l'histoire. Mais je ne vis pas, si vous voulez, dans ce but-là. Je ne vis pas en me disant, bon, bah, demain, je vais faire un film, comme ça, je serai inscrite dans l'histoire et peut-être ce que je ferai, non, j'y crois vraiment, je crois à ce partage, je crois à... Vous savez, moi, pour moi, par exemple, elle a parlé de théâtre. Moi, pour moi, le théâtre, c'est une scène, c'est la scène, d'ailleurs, de l'émotion qui transperce et qui transperce toute frontière. Ça veut dire que, en tant que comédien, on est sur la scène, on fait notre job, mais c'est quand même incroyable ce qui se passera entre nous et le public en face, quelque chose qu'on vit pas quand on est au cinéma, quelque chose qui reste vraiment de l'ordre de travail théâtral. Et pour moi, quand je fais des films ou quand je fais des pièces ou quand je travaille, ce qui m'intéresse, c'est ce partage, j'ai envie de dire, d'identification émotionnelle qu'on traverse tous ensemble. Et quand je fais un film et que je sais que je suis plus dedans, en fait, je suis plus devant quand les gens le voient. Ce qui me plaît, c'est que les gens le voient, l'apprécient et s'identifient à l'intérieur ou apprendre peut-être quelque chose sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Moi, souvent, je fais des films qui viennent, comme on disait tout à l'heure, de cette partie du monde où les nouvelles qu'on reçoit, ils sont toujours one-sided, comme on dit. En fait, c'est d'un point de vue complètement...
Partiel.
Bah oui, Donc ça appartient presque, on dirait, aux journalistes qui sont en train de nous donner les nouvelles. Mais je trouve que le travail qu'on fait au cinéma, ça va au-delà. Ça va jusqu'à la recherche de qui sont ces gens. Qui c'est ce nombre ? Quand on dit 105 morts, moi, ça m'intéresse de parler d'un mort et de parler de son histoire. Et du coup, l'identité qu'on donne, le nom qu'on donne à cette personne et le partage qu'on fait dans son histoire personnelle, j'ai l'impression que ça affecte beaucoup plus les gens que le nombre de 500. Quand on entend 500, on est un peu triste, on dit « Ah, les pauvres !» et ça s'arrête là. Mais quand on voit le parcours d'une vie, bah, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas juste sur un nombre, en fait. On arrête vraiment, on rentre dans l'histoire et on le vit.
Et ça, cet autre récit, ces autres images, Lina Swalem, de la Palestine aujourd'hui contemporaine, c'est aussi ça qui vous intéresse, vous. Vous êtes une génération nouvelle, vous avez face à vous des artistes aussi nouveaux qui ont 20, 30 ans en ouais. Palestine, et c'est... Je parle d'eux parce que c'est entre autres eux que vous invitez au festival Palestine and Out qui aura lieu début juillet à Paris. Oui, qu'est-ce qui vous intéresse dans la façon dont ils racontent justement la Palestine aujourd'hui ?
En fait, c'est surtout de pouvoir de leur permettre de transmettre leur création. Déjà, premièrement, parce qu'on les voit toujours d'abord comme palestiniens avant d'être artistes. Et je pense que c'est important pour eux de pouvoir s'inscrire dans ce monde comme tout artiste, avec des guillemets, bien sûr. Et qu'on arrête de les considérer simplement parce qu'ils ont telle ou telle identité. C'est aussi parce que venant de cette région du monde, il y a très peu de gens qui s'attendent à voir de telles choses. Donc on a envie de permettre aussi au public ici d'accéder à un autre visage de la Palestine, parce qu'on en parle toujours de la même façon. Souvent les gens sont surpris que les gens fassent la même chose qu'ici. Donc évidemment, on est tous, enfin, tous les êtres humains créés, tous les êtres humains font des choses atypiques ou typiques, justement. Et c'est aussi parce que moi-même, même si je suis de là-bas, je suis souvent surprise par ce qui se passe. Et par... Enfin, c'est un endroit très fermé. C'est ce que toi, tu ressens là-bas. Mais à la fois, du fait de cette fermeture, il y a une énorme ouverture. Et c'est pour ça que « ouverture » était aussi un de mes mots. Parce que, justement, il y a tellement peu de solutions que les gens essayent de trouver plein de moyens de s'exprimer. C'est très créatif, c'est très original. Et je trouve que c'est très important. C'est comme si la culture était une des dernières choses qui restait à montrer, une des dernières choses avec lesquelles on peut s'identifier, venant de l'extérieur.
Parti d'un héritage à discuter, de murs à faire tomber, on aura ouvert les yeux de plus en plus fort, comme pour faire que la réalité soit autrement, et on aura réclamé notre droit à la naïveté. On pourra entendre Messia en octobre à Toulouse, Montluel et puis en Algérie, et il faudra attendre le 7 décembre pour la voir en concert au Café de la Danse à Paris. Ne manquez pas donc le festival Palestine and Out, ce sera du 7 au 13 juillet dans 7 lieux à Paris, avec beaucoup d'artistes palestiniens. Exprès, Lina, vous les avez fait venir pour qu'ils soient là pendant 7 jours à Paris. Des artistes, donc, plasticiens, performeurs, musiciens.
Danseurs aussi.
Danseurs et poètes. Ouais. Avant la nuit, je dis merci à Boris Pineau, à Lionel Quentin pour la réalisation. Merci à la technique, à Pascal Bénard et Nadège Antonini.